Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette chapelle des apparitions du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie, à vous qui êtes des pèlerins venus d'ailleurs, et aussi à vous, chers parodiants. Merci, chères sœurs de la Visitation, de nous accueillir ce soir pour passer ce moment en ce jeudi de l'octave de Pâques à nous rappeler l'acte d'amour suprême que Jésus a vécu durant sa passion, donc avant sa résurrection, et qui nous sera révélé d'une manière particulière à la lumière de Pâques. Bonsoir à vous aussi, chers auditeurs de Radio Espérance. Nous allons commencer une méditation sur justement le mystère de la résurrection qui nous révèle la miséricorde du Père, la miséricorde divine. Et je vais vous proposer à prendre un peu de temps avant de vivre l'heure sainte, comme chaque premier jeudi du mois, le jeudi qui précède le premier vendredi du mois, le vivre ce soir avec un regard plein d'espérance, de confiance dans la présence de Jésus qui est ressuscité, qui est vivant. Et qui va nous aider à peut-être comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est que cette miséricorde qui habitait son cœur. Alors nous commençons ce soir ces fêtes de la miséricorde pour nous préparer à mieux la célébrer le dimanche, qui est le dimanche de la miséricorde, tel que le pape Jean-Paul II l'a instauré pour l'Église entière en 2000, juste le jour où il avait canonisé Sainte Faustine, cet apôtre de la miséricorde divine. Je vais m'inspirer particulièrement d'une méditation du père Pierre Descouvement, dont je vous propose quelques points de réflexion que j'ai trouvé d'une très grande qualité et grande profondeur. Il commence cette méditation sur le Christ, qui est icône et source de la miséricorde divine, avec une citation du pape Jean-Paul II, qui disait dans une de ses lettres encycliques sur la miséricorde de Dieu, que le Père a voulu choisir Jésus, son Fils, pour que ce soit lui qui, à travers sa résurrection, manifeste toute sa miséricorde de Père pour l'humanité entière. Et cette affirmation du pape Jean-Paul II, dont nous nous sommes souvenus, de la mort de laquelle nous sommes souvenus il y a quelques jours, le 2 avril, eh bien, mérite un approfondissement particulier. Et ça peut sembler un peu surprenant, parce qu'en parlant de la miséricorde, nous pensons à un amour de Dieu qui se penche vers nos misères, pas justement pour nous pardonner, nous guérir. Et c'est vrai. Mais la miséricorde du Père va au-delà du pardon. Et on va essayer de voir ce soir en quoi consiste justement cette profondeur et cette puissance de la miséricorde que le Père veut nous révéler à nous tous. Alors nous savons bien qu'elle a été déjà révélée dans l'Ancien Testament, mais il était réservé à Jésus, à la personne vivante du Fils de Dieu fait homme, de manifester aux hommes toute cette profondeur. Et en effet, durant sa vie, par son comportement à l'égard des pécheurs, Jésus le montre, il mange avec eux, même s'ils ne sont pas encore convertis, il se met à table avec les pécheurs. Et ensuite, par ses enseignements, les paraboles, mais particulièrement durant sa passion, son attitude envers ceux qui le torturaient, par rapport à ses bourreaux aussi, il donne un pardon qui révèle que son Père est vraiment une fontaine intarissable de miséricorde. Et c'est peut-être le premier point que je vais vous proposer ce soir dans cet enseignement, la fontaine intarissable de la miséricorde du Père. C'est Jésus, la personne même de Jésus. Deuxième point, ce sera une méditation sur l'amitié fidèle du Seigneur qui nous console, nous, jour et nuit, mais que nous aussi, nous pouvons consoler jour et nuit à notre tour. Et c'est ce que nous essayons de le faire en public, particulièrement durant cette heure sainte, consoler Jésus durant son agonie. Et enfin, troisième point, Jésus est nommé premier-né d'entre les morts par saint Paul dans une de ses lettres aux Colossiens. Eh bien, en effet, il veut nous ressusciter nous aussi. S'il est le premier-né, eh bien, c'est qu'il a des frères et sœurs. Et donc, il nous communique justement cette puissance de la résurrection qui nous attend, enfin, que nous allons vivre un jour si nous voulons. Alors, pour commencer, évidemment, nous nous mettons en cette présence de Jésus qui est ressuscité par son Père. C'est lui qui a donné à son Fils, eh bien, cette joie, eh bien, de vivre une véritable résurrection, cette union entre son âme et son corps, la nuit de Pâques. Et nous venons de le fêter les jours passés. Donc c'est à ce moment-là qu'en effet, le Père a voulu manifester toute sa puissance. Mais évidemment, cette résurrection nous révèle beaucoup d'autres aspects de cette miséricorde du Père. Mais il faut quand même s'arrêter sur ce point très précis. Quand Jésus ressuscité apparaît au soir de Pâques à ses apôtres, il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à vous qui remettez les péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez les péchés, ils seront maintenus. » Donc c'est en fait ce désir qui habitait le cœur de Jésus depuis toujours. Les envoyer de par le monde pour que eux-mêmes, ses apôtres, donc nous aussi, nous puissions proclamer sa miséricorde infinie pour les pécheurs, son désir de purifier tous ceux qui sont pécheurs de leur mal, de leur péché. C'est en effet le premier sens de cette miséricorde donnée. Remettez les péchés. Et Jésus savait bien qu'il ne pourrait le faire seulement qu'une fois ressuscité d'entre les morts. Car son corps glorifié, de son corps glorifié, pourrait jaillir les flots de miséricorde seuls capables de réaliser cette purification. Il fallait la résurrection, qui est en fait la réponse définitive au mal. Dans la résurrection, la mort même est vaincue. Et on le chante, on le médite, particulièrement dans les lectures de ces jours-ci, ou alors quand nous prions la séquence de Pâques, la mort et la vie se sont confrontés dans un duel prodigieux, mais l'auteur de la vie a vaincu. Et bien donc du coup, quand nous allons contempler l'icône de Jésus, qu'elle a été décrite à sœur Faustine, vous voyez le Jésus miséricordieux avec ces deux rayons-là, blanc et rouge, eh bien, nous comprenons le désir du cœur de Jésus de régénérer justement les pécheurs, c'est-à-dire les sortir, les tirer de la puissance de la mort même. Et nous savons bien que ces deux rayons symbolisent l'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie qui proviennent du cœur de Jésus transfiguré, quand Jésus a jamais ressuscité. Il n'est pas représenté sur la croix cette fois-ci. Il est représenté, ressuscité. Alors nous allons avoir cette image devant nos yeux les jours qui viennent, qui va nous aider justement à entrer dans ce grand mystère. Alors en effet, le Père lui-même avait décidé de toute éternité d'enfermer en quelque sorte toutes les effluves de l'Esprit-Saint qu'il voulait déverser sur ses enfants dans le corps de son Fils bien-aimé, qui est cette fontaine d'où l'eau et le sang jaillissent, ces deux rayons. Il aurait pu, peut-être, envoyer cet esprit directement dans le cœur de tous ses enfants, sans intermédiaire, du Dieu est tout puissant, il aurait pu faire. Mais ce n'était pas ça son plan. Ce n'était pas ça sa volonté. Il avait annoncé depuis bien longtemps par ses prophètes, surtout, que la transformation de nos cœurs par l'Esprit se ferait par l'intermédiaire d'un être mystérieux qu'on appellerait le Messie, c'est-à-dire le Oint, hein, Christos en grec, c'est-à-dire cet être qui serait tellement imprégné de l'Esprit Saint qu'il pourrait le répandre abondamment sur tous ceux qui demeureraient en lui et en qui il demeurerait, comme il le dit Jésus hein, dans son dernier discours. Alors en effet, c'est en nous prenant dans ses mains de ressuscité, ses mains qui gardent encore les blessures, hein, et en venant habiter dans notre cœur, que Jésus, vivant, répand dans notre être l'Esprit dont il est lui-même rempli, et qui nous fait vivre ainsi de sa vie de ressuscité. Et plus nous nous abandonnons entre ses mains toutes puissantes, plus nous lui permettons de réaliser en nous son œuvre de miséricorde, son travail de purification et de sanctification. Et c'est en ce sens que notre foi chrétienne, hein, laisse une place centrale au corps humain. Puisque c'est par le corps du Christ, par sa sainte humanité, comme disait sainte Thérèse d'Avila, que le Père a décidé de répandre sur nous sa miséricorde. Ce n'est pas en dehors du corps de Jésus, c'est dans son propre corps, c'est ce corps qu'il a reçu de la Vierge Marie, semblable en tout à notre corps, à nous. Hein. Et donc, nous-mêmes, hein, nous pouvons l'accueillir dans notre propre corps, cet Esprit Saint qui nous apporte la miséricorde, celle qui a le dernier mot, en fait, hein, sur le mal et sur nos péchés. Alors, on dit que cette miséricorde qui jaillit du corps de Jésus s'est répandue sur tous les hommes, en fait, hein, même sur ceux qui vivaient avant le Christ. Alors, on peut se poser une question, c'est quand même bizarre, parce que avant le Christ, il n'y avait pas le Christ. Enfin, avant Jésus, il n'y avait pas de Jésus. Donc, il n'y avait pas encore ce corps hein, qui devait être la source de l'Esprit. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que les hommes d'avant vivaient de la miséricorde? Bien, il s'agit simplement de se rappeler, justement ce que nous faisons maintenant, hein, que Jésus ressuscité, donc ce corps du Christ hein, ressuscité, échappe totalement aux limitations de l'espace et du temps. Et les apparitions de Jésus nous le montrent bien. Hein. Rien ne l'empêche de venir quand il veut, même dans le cénacle où les apôtres sont enfermés. Donc du coup, il peut répandre toutes ses richesses, non seulement à travers les cinq continents, hein, d'une manière géographique comme ça, mais à travers aussi le temps, à travers tous les siècles de l'histoire, dans le passé ou dans l'avenir. L'humanité entière ne reçoit la miséricorde du Père qui jaillit du cœur de son Fils que de cette manière, hein, en recevant tout ce que le corps humain ressuscité de Jésus veut transmettre. C'est un grand mystère, et c'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous pouvons puiser, boire hein, à cette fontaine intarissable qui est le cœur de Jésus ressuscité. Alors, cette miséricorde du Père nous est donnée ainsi. Et c'est important de l'accueillir comme ça. C'est-à-dire que Jésus lui-même l'a expérimenté personnellement. Hein. Il a reçu du Père cet amour qu'il a tiré du tombeau. Et il ne pouvait pas garder cette miséricorde pour lui. Il veut la répandre. Alors nous allons essayer tout simplement de l'accueillir. Alors comment on va l'accueillir? Je passe à mon deuxième point. Lui, Jésus, qui se propose d'être notre ami fidèle à tous les instants, eh bien, il est non pas seulement le canal par lequel transitent tous les torrents de l'Esprit-Saint, hein, qui viennent régénérer notre cœur humain, mais il est aussi celui qui nous invite, particulièrement maintenant, voilà, dans ces jours de Pâques, à vivre une véritable amitié avec lui. Il le disait déjà, hein, durant la dernière scène, hein, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Alors, Cette année, nous célébrons ici à Paray-le-Monial l'année de l'amitié en se rappelant ce que Jésus avait dit ici dans cette chapelle aussi à Marguerite-Marie. Hein. Tu n'es plus mon esclave, tu es ma disciple bien-aimée, mon ami. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que cette amitié? Ça aussi c'est un grand mystère, mais je m'arrête simplement avec le Père d'Escouvement hein, qui nous livre voilà, ces méditations. Un aspect important, la consolation. Un ami, c'est celui qui console son ami à tout instant, du jour et de la nuit. Ça veut dire que Jésus a un grand désir de venir nous donner cette consolation. Donc vous voyez, au-delà du pardon, eh bien, il veut nous révéler quelque chose de encore plus profond. Et d'abord, il faut commencer par se réjouir de croire en Jésus et croire que lui il est toujours avec nous. Hein. C'est, bon, il le dit. Hein. Il a promis à ses apôtres le jour de l'ascension, le jour où il les a, on peut dire, sevrés définitivement de sa présence sensible. Hein. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est toujours là. Et en disant cela, qu'est-ce qu'il voulait dire? Eh bien, il ne parlait pas que de la présence substantielle de son corps et de son sang dans l'Eucharistie, hein. Cette présence qui se trouve là dans nos tabernacles, dans tous les tabernacles du monde. Hein. Mais il parlait d'abord hein, de sa présence réelle, de ressuscité sur tous les chemins de notre vie. Il est toujours à nos côtés. Quand on dit « Christ est ressuscité », c'est cela que ça veut dire, hein. Il est vivant maintenant avec moi. Et il sera dans une minute, dans 30 minutes, et toute la nuit, et demain, et à chaque instant. Et partout où on va. Autrement, notre foi dans Jésus vivant n'a aucun sens. Hein. Il faut se mettre ça, vous voyez, dans notre cœur. Vous savez que la foi que nous avons, hein, et nous réjouissons en nous saluant comme ça, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Bon, c'est vrai. Mais pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, c'est ça que ça veut dire. Qu'il se trouve toujours à nos côtés, comme il était cet après-midi de Pâques sous la route d'Emmaüs, avec ses deux disciples découragés, comme il était venu avec ses autres apôtres, comme il est venu rencontrer Thomas, hein, on verra ça demain dans nos méditations et les jours qui viennent. Alors, il s'agit d'une présence bien réelle, hein, réelle. Bien sûr que vous pensez à quoi? À l'Eucharistie, ce qu'on dit que c'est la présence réelle. Mais là, il faudrait faire ces petites distinctions, parce que réel veut dire, comme le disent hein, le pape Paul VI et aussi Jean-Paul II, le mot réel, ils l'utilisent pour dire que Jésus est présent vraiment en dehors de sa présence substantielle dans le tabernacle. Réel aussi, évidemment. Mais là, vous voyez, pour faire la distinction entre... C'est deux façons d'être parmi nous. On parle de réel et substantiel. Dans l'Eucharistie, nous avons Jésus réellement présent, mais substantiellement, vous voyez, dans la substance de son corps transformé. Eh bien, de ce pain transformé dans son corps. Alors, c'est justement grâce à cette présence réelle que Jésus ressuscité nous console. Consoler. Consoler. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est être avec quelqu'un qui est seul. C'est-à-dire, consoler quelqu'un veut dire empêcher quelqu'un de se sentir seul. Ça veut dire être avec lui, consoler. Être avec lui dans sa solitude. Du coup, le délivrer de la tristesse, de l'isolement. Père Pierre d'Escouvement pense aux célibataires hein, qui font souvent une erreur en pensant qu'en rentrant chez eux, ben, ils se disent ben, « je suis seul dans mon appartement ben, ». Quelle erreur! Mais non, quelqu'un t'attend là, dans ta maison, où tu habites peut-être seul, mais tu n'es pas seul, il y a quelqu'un qui est avec toi. C'est le Fils de Dieu en personne, plein de tendresse. Plein de miséricorde, toujours prêt à nous pardonner dans nos oublis, dans nos indifférences, dans nos crises spirituelles. Il est là toutes les fois, même où nous oublions sa présence. Et c'est cela que ça veut dire la consolation de Jésus. Alors, croire en Jésus, eh bien, c'est aussi croire qu'il nous sourit, qu'il nous regarde, qu'il nous parle. Peut-être nous n'entendons pas le son de sa voix, un son qui frappe les tympans. Mais il nous redit chaque jour, en direct, et même dans notre langue maternelle, tous les messages d'amour qu'il a donnés autrefois, jadis, une fois pour toutes à ses disciples. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je ne vous appelle plus serviteurs, mes amis. Demeurez dans mon amour. Alors, on peut aussi se représenter dans notre esprit un peu le visage magnifique de Jésus, à travers nous, lequel nous contemplons à jamais cette miséricorde infinie du Seigneur. Bien sûr, c'est toute la tendresse des trois personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit, qui vont réjouir un jour, et pour toujours et éternellement, notre cœur. Mais nous verrons aussi, plein de bonheur, ce regard, ce sourire posé sur chacun de nous dès maintenant. Ce regard de Jésus sur nous. Ce regard qui a bouleversé le cœur de Saint-Pierre, par exemple, peu de temps après son triple reniement. Avec un regard, Pierre s'est converti, il a pleuré amèrement après, ils nous disent les évangiles. Un regard plein de douceur. Et quelle douceur! Quelle miséricorde! Aucun jugement dans le regard de Jésus. Bien, essayons de nous laisser regarder par lui. Alors, Thérèse d'Avila nous explique comment la vision du Jésus-Christ ressuscité, dont elle a bénéficié à plusieurs reprises, par les yeux de l'âme et non par ceux du corps, dit-elle, lui a donné une idée de la béatitude céleste. Alors, je vais la citer, Sainte Thérèse d'Avila. « Un jour de la fête de Saint Paul, pendant la messe, je vis notre Seigneur dans sa sainte humanité tout entière, tel qu'on le peint ressuscité. » Des représentations qui existaient déjà à l'époque. « Il m'a paru dans une beauté et une majesté incomparables. Comme je vous l'ai écrit, mon Père, quand vous me fîtes un ordre formel de vous le raconter. Je ne crains pas de le dire. N'aurions-nous pas d'autre spectacle pour charmer notre vue dans le ciel que celui de la grande beauté des corps glorifiés, et en particulier la sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ? Ce serait une gloire immense. Et cependant, notre Seigneur ne se fait connaître ici-bas que d'une manière conforme à notre faiblesse. » C'est-à-dire qu'il tient compte de nous, Il se manifeste à chacun selon sa propre manière d'accueillir. « Que sera-ce au ciel, dit Thérèse, où nous jouirons pleinement d'un si grand bien ?» Alors, Sainte Faustine aussi rapporte dans son petit journal ceci, « La résurrection. Aujourd'hui, pendant la résurrection, je vis le Seigneur Jésus dans une grande clarté qui s'approcha de moi et dit « Que la paix soit avec vous, mes enfants. » Il leva la main et nous bénit. Les plaies de ses mains, de ses pieds et de son côté n'étaient pas effacées, mais lumineuses. Quand il me regarda avec une telle bienveillance et un tel amour que mon âme entière sombra en lui, il me dit « Tu as pris une grande part à ma passion, c'est pour cela que je te donne cette grande part à ma gloire et à ma joie. » Tout le temps de la résurrection me sembla durer une minute. Un étrange recueillement envahit mon âme et il demeura pendant toute la durée des fêtes. Et Sœur Faustine rajoute, « La bienveillance de Jésus est si grande que je ne puis l'exprimer. » C'est un témoignage. Mais sûrement, l'un ou l'autre, l'une ou l'autre d'entre vous, entre nous, pourrait aussi en donner des témoignages comme ça. C'est pas seulement un sentiment, une impression, une expérience réelle. Dans notre contemplation avec Jésus, eh bien, on peut le voir ainsi. Voyez. Bien sûr que nous avons tous hâte de contempler éternellement ce regard merveilleux de Jésus. Alors, on le chante à travers nos différentes prières, hein, particulièrement à travers un hymne qui a été composé par saint Thomas d'Aquin, « Je t'adore hein, », où on lui dit, hein, vers la fin, « Jésus, que sous un voile à présent je regarde, je t'en prie que se réalise ce dont j'ai tant soif, te contempler, la face dévoilée, que je sois bienheureux à la vue de ta gloire. » Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Eh bien, nous verrons aussi le corps de Jésus transfiguré avec les stigmates de sa passion, comme d'ailleurs hein, Sainte Marguerite Marie l'a bien contemplé, les plaies lumineuses de son corps crucifié. Et là, c'est un grand privilège, hein, et ça se passait ici même, vous voyez. Alors, cette fresque nous le rappelle sans cesse, vous voyez. Les plaies de Jésus brillant comme des soleils. C'est quelque chose de très mystérieux. Hein. Et quand Marguerite Marie dit de sa poitrine sortait des flammes de toutes parts, l'ayant ouverte, il me découvrit son cœur, source vive de ses flammes. Et elle rajoute ceci, il me découvrit alors les merveilles inexplicables de son cœur et jusqu'à quel excès il l'avait porté à aimer les hommes dont il ne recevait que de l'ingratitude. Vous voyez, dans cette expérience, cette rencontre avec Jésus, qu'est-ce que nous pouvons recevoir? Cette immense consolation. Voilà, je l'ai vécu pour toi. Voilà, toutes ces souffrances, voilà, et bien, maintenant, tout mon amour, tout puissant, en tant que ressuscité, je te le donne. Alors évidemment, quand nous regardons l'hostie consacrée, parce que c'est là hein, que cette rencontre se fait, bien, écoutons Jésus qui nous dit cela, hein, c'est « Ceci est mon corps qui a été livré pour toi. Car c'est aussi pour toi très spécialement que je me suis laissé torturer sur la croix en réparation de tous tes péchés. » Car nous avons le droit de penser avec tous les saints que Jésus est mort, non pas pour tous les hommes en général, mais pour chacun de nous en particulier. Écoutons Jésus qui nous dit ceci, hein, « J'ai pensé à toi dans mon agonie. J'ai versé telle goutte de sang pour toi. » Et ici, il y a quelque chose de très important que je voulais voilà, vous inviter à garder dans votre cœur. C'est sûr, durant l'heure sainte que nous vivons régulièrement, eh bien, nous sommes appelés à consoler Jésus. Hein, et puis à prier, à intercéder pour les pécheurs, à lui montrer qu'on l'aime pour ceux qui ne l'aiment pas. Mais c'est important de se le rappeler, et c'est le moment, surtout maintenant, qu'en fait, dans ce jardin de l'agonie, c'est lui qui était en train de consoler l'humanité entière. Parce qu'il est en train, là, de donner sa vie par amour pour nous sauver. Il pensait à nous. Il vivait toutes les souffrances que nous pouvons vivre, hein, et même plus. Et son intention, à ce moment-là, eh bien, c'était justement d'expérimenter cela, de s'approcher tellement de tous ceux et celles qui souffrent, à un point qu'on ne peut pas imaginer. Et justement, pour la même raison que comme je disais tout à l'heure, son corps est ressuscité, eh bien, à la lumière de la Pâque, ce corps de Jésus ressuscité eh bien, est capable de venir voilà, nous donner cette consolation à cause de ces sentiments qu'il a expérimentés déjà dans son jardin d'agonie. Donc nous étions présents, on le sait, hein, enfin, on le dit, on se rappelle, nous étions tous présents à son esprit à ce moment-là. Donc avant de dire à Jésus, je viens te consoler, eh bien, accueillons sa consolation à lui. Et tout à l'heure, voilà, on aura l'occasion de le faire. Nous allons accompagner ce Jésus dans l'agonie, mais d'abord dans cet esprit. Et d'ailleurs, bien sûr, je vais passer à un autre point concernant justement la consolation. Eh bien, nous-mêmes recevons de lui, en fait, hein, cette grâce hein, de lui répondre à l'amour. Et donc, oui, nous pouvons dire hein, que, comme tous les saints, en fait, hein, que nous sommes là et nous vivons dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Mais en accueillant justement ce qui s'est passé sur la colline du Calvaire, hein, plus que partout ailleurs, où Jésus a voulu nous manifester cette profondeur de sa miséricorde, de son amour personnel pour chacun de nous, au point où nous remplir le cœur de cet amour. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir lui donner quelque chose, pour pouvoir l'aimer. Alors, c'est pour cela que nous pouvons consoler à notre tour Jésus, hein. L'amitié qu'il nous propose est tellement réelle aussi qu'il accepte d'être vraiment touché par toutes nos marques d'affection, comme par tous nos manques d'amour aussi, hein. Et là aussi, c'est vrai, nous on pense qu'on blesse Jésus par nos péchés, qu'on lui fait du mal, qu'on le touche, quoi, hein, par nos imperfections. Mais pensons aussi que nous pouvons le toucher en sens positif, quoi. Le consoler vraiment, lui dire, je suis là, je ne veux pas te laisser seul. Consoler Jésus. Alors, tout en étant infiniment heureux près de son Père, Jésus accueille avec beaucoup de plaisir toutes les manifestations, aussi minimes soient-elles, de notre contrition à nous, de notre confiance, de notre reconnaissance. Alors, il l'a dit, hein, explicitement, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui s'imaginent n'avoir pas besoin de se convertir. Alors évidemment, quand il nous voit nous convertir, ben il est touché. Jésus est tout content. Et consolé, oui. Dans cette agonie-là, eh bien, nous sommes rendus présents mystérieusement depuis qu'il est ressuscité, hein, parce qu'il vit déjà en nous, vous voyez. Donc, voilà le sens de, enfin, hein, des pensées que nous pouvons avoir durant cette heure sainte que nous vivons. C'est une vérité extrêmement mystérieuse, mais qui nous aide vraiment à vivre autrement aussi toutes nos épreuves de notre pèlerinage sur terre. Nous pouvons chaque jour de notre vie connaître cette joie de consoler ainsi le cœur de Jésus. C'est un privilège qu'il nous fait, hein, en fait. C'est une grâce extraordinaire qu'il nous accorde. Si nous comprenons cela, eh bien, je me permets de le dire, bienheureux sommes-nous, hein, car il nous aime tellement comme un amoureux, hein, un amoureux qui aime notre âme, hein, qu'il a voulu que nous puissions lui donner de la joie par nos actes de confiance et d'amour. Et donc, on peut dire, hein, comme le disait Sophonie, hein, il danse de joie, en fait. Il danse de joie quand il voit ses enfants croire pleinement à son amour et à son pardon, se tourner vers lui. Alors, les expressions faire plaisir à Jésus, le réjouir, le faire sourire, bon, pour certains les prennent peut-être un peu à la légère, mais c'est quelque chose d'extrêmement réel, hein. Quelqu'un comme Thérèse, hein, de Lisieux cette fois-ci, a bien compris cela, hein. Et c'était son but, en fait, hein, faire plaisir à Jésus, le faire sourire. Et puis, bon, je ne vais pas m'arrêter longtemps sur elle, mais elle a beaucoup de témoignages où elle dit, voilà, je voulais passer mon temps à faire du sourire à Jésus. Ce qui, bien sûr, fait plaisir au Seigneur, ce sont donc aussi tous nos actes de confiance qui, avant tout, c'est un acte de foi lié à l'espérance et à la charité. Donc chaque fois que nous faisons un acte de confiance en Dieu, eh bien, nous faisons un acte de foi en son amour, en fin de compte, hein, quelles qu'elles soient les circonstances heureuses ou douloureuses de notre existence. C'est aussi espérer de lui son secours, compter sur lui. Si on l'appelle ami, il faut compter sur lui, n'est-ce pas? Pour parvenir à la sainteté qu'il veut nous donner, hein, qu'il projette pour nous. C'est aussi l'aimer, puisque rien ne lui fait plaisir comme cet acte d'abandon entre ses mains paternelles, plein de tendresse et de miséricorde. Alors, après avoir affreusement souffert sous Ponce Pilate dans son corps et dans son âme humaine, Jésus est entré à jamais dans la gloire et ne peut donc plus souffrir. C'est-à-dire que les blessures qu'il garde après la résurrection ne font plus mal, hein, en tant que tel. Mais, mystérieusement, en même temps, il continue à souffrir en quelque sorte en chacun des membres de son corps mystique, qui est l'Église souffrante sur la terre. Le corps de Jésus que nous formons. La preuve, c'est qu'il nous dira plus tard, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu faim et vous ne m'avez pas nourri, dit-il à d'autres. Donc, lorsque le jeudi après-midi, quelqu'un comme Marthe Robin sentait les stigmates de la passion de Jésus revenir dans son corps, elle disait, c'est Jésus qui souffre en moi, mais Jésus dans sa gloire, bien sûr, parce qu'il est ressuscité. Alors, les folies d'amour dont nous constatons l'existence dans la vie des saints ne peuvent se comprendre que par leur foi inconditionnelle dans cette possibilité que Dieu nous donne à tous de lui rendre amour pour amour, de lui faire plaisir. Alors, bien, nous prions que cette conviction s'enracine un peu plus dans notre esprit, dans notre cœur, et nous faire faire à notre tour quelques folies d'amour aussi, hein, pour sa joie et le salut de nos frères. Et alors, un troisième point avant de finir. Jésus est le premier né d'entre les morts, dit saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, 1er chapitre, verset 18. Qu'est-ce qu'il veut dire par cette expression? Eh bien, c'est qu'en contemplant le Christ ressuscité, nous contemplons aussi ce que nous deviendrons un jour, lorsque les temps seront accomplis, et que dans le ciel, ressuscité par la puissance de l'Esprit, ce même Esprit qui l'a ressuscité lui, hein, tout notre être jouira pleinement de la récompense que Dieu nous prépare de toute éternité. Nous sommes destinés tous à devenir impeccables. Nickel, dit Satan. On sera nickel. C'est-à-dire que des pécheurs, nous allons devenir blancs comme la neige, même si on a été peut-être le plus grand criminel. Et on ne trouvera plus rien en nous, hein, du mal, quoi. Hein. Pourquoi? Eh bien, si le Seigneur nous aime d'un amour de miséricorde, s'il continue à nous aimer alors que nous sommes devenus misérables, eh bien, lui, il veut nous en sortir pour toujours, pas à moitié, pas un peu, pas pour quelque temps. Quand il dit, par exemple, à la jeune fille dans l'Évangile, « Talita cum », je te dis, jeune fille, lève-toi, ben, c'est le symbole de la résurrection déjà, hein. Ben, c'est une parole aussi qui jaillit de son cœur, hein, de ses lèvres, et qui, en fait, sont semblables à ce que le prêtre le dit hein, dans le sacrement de la confession. Hein, quand un prêtre prononce en son nom, eh bien, cette puissance du pardon, je te pardonne. Et donc, Jésus nous donne vraiment un cœur nouveau, on peut parler même d'un transplant, hein, de cœur, dans ce sacrement de la miséricorde qui est la confession. Il est vraiment tout puissant, est-ce que nous le croyons? Il est vraiment capable de transmuer l'ordure d'une vie en or pur. Bien, cette puissance ne concerne pas que l'âme, hein, ça concerne aussi notre corps, hein, qui est appelé à une totale métamorphose par la puissance de son esprit. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, et on l'a entendu souvent ces jours-ci, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Du coup, le corps transfiguré, donc ressuscité, hein, déjà, hein, eh bien, on l'a vu de certaine manière, enfin, dans cette expérience, hein, dans la transfiguration, hein, Pierre, Jacques et Jean ben, l'ont vu, hein, ce corps qui peut subir une transformation complète. Il n'était pas encore ressuscité, mais c'était une image, hein, de ce que nous tous allons devenir par la puissance de l'Esprit. Alors, nous ne pouvons pas imaginer ce que seront la terre nouvelle et les cieux nouveaux, bien sûr, hein, dans la vie d'après notre mort et la résurrection, cette vie nouvelle que Dieu nous prépare, mais nous avons le droit et le devoir même de penser qu'ils seront infiniment plus beaux que tout ce que nous pouvons entrevoir. Il y a quelqu'un qui disait, j'imagine mal Dieu, auteur du miracle de la vie, confectionnant un ciel ressemblant à une chambre pour enfants sages. Franchement, je n'imagine rien du tout. Une chose, une seule est certaine, ce doit être merveilleux. Ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Et alors, en effet, hein, dans le ciel, là où le Seigneur nous attend, bien, toute notre personne hein, bien, sera complètement transfigurée, exactement comme le corps de Jésus. On va avoir des qualités dont je ne peux pas vous parler parce que j'y suis pas allé encore. Mais voilà, donc ce soir, en passant ce moment avec près de Jésus, hein, qui souffre, hein, dans ce corps qui est l'Église, eh bien, gardons dans notre cœur cette puissance de la miséricorde qu'il est en train de répandre encore et encore à cause de cette force inimaginable de sa résurrection. Eh bien, notre foi dans la résurrection, c'est aussi la façon d'accueillir justement toute cette puissance et cette miséricorde qu'il veut nous accorder. Eh bien, entrons maintenant dans cette prière pour le remercier de venir nous consoler et accueillir aussi la force de le consoler lui, hein, présent dans son corps qui est l'Église. Merci.